Bienvenue au balado, Hormones et compagnie. Bonjour, je m'appelle Sarah Rodrigue et après avoir lutté pendant près de 27 ans contre un trouble de SPM extrême, j'ai réalisé qu'il était grand temps que l'on parle plus ouvertement des réalités hormonales et gynécologiques qui affectent notre vie. Parlons donc sans tabou de SPM, endométriose, grossesse, infertilité, ménopause, rage de sucre, trouble dysphorique prémenstruel, folie passagère et poils au menton. Bienvenue à toutes et à tous. Pour ce premier épisode, j'ai décidé de vous parler de couple. Je sais trop bien ce que c'est que de ne pas savoir comment expliquer à son conjoint ou à sa conjointe comment on se sent quand on vit un véritable enfer hormonal. Je sais aussi ce que c'est que de développer avec le temps la certitude que notre couple ne pourra jamais survivre à une seule autre crise mensuelle. Et je sais aussi à quel point les conjoints et les conjointes peuvent se sentir impuissants face à toute cette souffrance. Je me suis donc dit qu'il serait pertinent, pour ce premier épisode, de m'asseoir avec mon chum pour discuter des différents trucs que lui et moi avons développés au cours des deux dernières décennies. Pour parler de nos erreurs, mais aussi de nos bons coups. J'espère que notre échange pourra vous apporter plein d'espoir et possiblement quelques stratégies pour mieux vivre cette condition. Bonne écoute! Tout d'abord, bonjour.
Salut.
Merci d'avoir accepté de faire ce premier épisode avec moi. Je te remercie parce que je sais que c'est pas évident pour toi d'accepter de partager une partie de ta vie intime. Pour commencer, j'aimerais ça qu'on se mette dans la peau du conjoint du conjoint. Et donc, j'aurais quelques questions à te poser. Je voudrais savoir en premier, si tu avais une image pour décrire le trouble dysphorique prémenstruel, quelle serait-elle?
Une image, ça c'est mieux que des mots parce que j'ai jamais été capable de le prononcer correctement, le TDPM. Alors, une image, un ouragan. C'est un ouragan qui frappe à la porte de la maison plusieurs jours par mois, qui rentre dans la maison, qui met un peu tout sans dessus dessous, et puis qui repart et qui revient et qui revient et qui revient chaque mois.
On connaît les impacts que le trouble dysphorique prémenstruel a sur les femmes qui en souffrent, mais sur ta vie à toi? Quels impacts ça a eu, tu dirais?
Je me suis souvent senti un peu plus seul quand ça arrivait. Ensuite, il y avait clairement de la tension à la maison, des disputes. Donc, c'est sûr qu'il y a une espèce de tension permanente qui est là. Souvent de la colère aussi, au début quand on ne comprend pas bien, et de l'agacement de ma part. Je n'ai pas toujours bien réagi, c'est sûr. Puis finalement,
je confirme.
Ça a eu un impact aussi sur le plan de la vie sociale, la vie professionnelle, où tu dois annuler des choses à la dernière minute parce que là, vraiment, toi, t'es plus capable et donc t'es au lit, etc. Donc, ouais, ça a quand même pas mal d'effets concrets sur la vie de famille, pas juste du conjoint d'ailleurs.
On m'a souvent posé la question de savoir si j'avais eu peur de te perdre à cause du trouble dysphorique prémenstruel, puis je sais que c'est la crainte de beaucoup de femmes qui en souffrent. Puis ma réponse est oui, à tous les mois. En plus de me sentir comme la merde, mais on sait que le trouble dysphorique prémenstruel apporte de la paranoïa, une perte d'estime de soi, une sensibilité accrue, une susceptibilité. Donc c'est sûr que tous ces éléments-là n'ont fait que démultiplier ma peur de te perdre. Alors ouais, j'ai vraiment eu peur de te perdre à tous les mois. Est-ce que toi, il y a des moments où t'as eu envie de fuir?
Tu veux dire des moments où j'ai pas eu envie de fuir?
Oui, on pourrait poser la question comme ça, oui.
pas fuir comme quitter le navire et puis finalement qu'on se sépare, ça, non. Par contre, j'ai eu beaucoup de moments où j'avais envie de me réfugier quelque part, qui était ailleurs, qui était prendre soin de moi-même et puis effectivement... avant ou après, pendant des fois aussi, pendant la crise, des fois on se dit « Ah non, écoute, je pars en voiture, je vais au cinéma, je m'en vais, et puis je te laisse tranquille pendant ce moment-là. » Ça, oui.
On me dit que je suis chanceuse.
Ouais, je sais pas, mais écoute, ça prend deux personnes pour danser un beau tango, donc j'imagine qu'on est tous les deux chanceux.
T'es probablement resté aussi, il faut que tu le dises, par amour et parce qu'on a une... On avait des relations sexuelles extrêmement épanouies parce que on le sait que le trouble dysphorique prémenstruel contribue beaucoup à ça, évidemment.
Ouais, ça sera un autre thème pour un autre podcast, la question de la sexualité. Mais pour ce qui est de l'amour, mais c'est sûr, en fait, tu le dis en rigolant, mais c'est un élément qui est fondamental.
On n'est clairement pas des psychologues, on se prétend pas non plus être des spécialistes, mais je pense qu'on voulait partager un petit peu de nos apprentissages puis des trucs qu'on a développés au cours des dernières décennies.
Ouais, il y a beaucoup de choses qu'on a fait, que moi j'ai faites, que j'ai pas bien faites. Donc je pense que mon catalogue des mauvaises pratiques et des mauvaises actions en la matière est beaucoup plus épais que celui des bonnes pratiques. Mais c'est vrai
Exact.
que vers la fin, on a commencé à trouver un peu notre aire d'aller pour essayer de, comment est-ce que je pourrais dire, mitiguer la situation.
Tu serais d'accord avec moi pour dire que la première chose qui nous semble importante, c'est que la femme qui souffre du trouble dysphorique prémenstruel se sente crue. Est-ce que tu dirais que ça serait ça? Parce que je sais que dans mon cas, c'est le moment où j'ai senti que tu me croyais puis que tu savais que c'était pas une question de dans ma tête ou d'une question juste de tempérament, que c'était vraiment une condition. Quand je me sentis crue, c'est là où ça m'a fait vraiment du bien.
Ouais, puis c'est une étape super compliquée parce que finalement, pendant longtemps, on savait que tu avais quelque chose, mais on savait pas ce que c'était, on savait pas s'il y avait. Enfin, on n'était pas capable de mettre des mots là-dessus. Donc finalement, moi, dans mon cas, le déclic, ça a été vraiment la grossesse, les difficultés liées à ta grossesse qui m'ont fait prendre conscience qu'il y avait quelque chose de grave.
Oui, pour ceux qui nous écoutent, il faut juste dire que préciser que dans mon cas, le trouble dysphorique prémenstruel s'est exacerbé avec mes grossesses, c'est-à-dire que j'ai été dans des. Les grossesses m'ont plongé dans des états prépsychotiques. Donc, c'est vrai que c'est à ce moment-là où on a réalisé à quel point j'avais une sensibilité accrue aux fluctuations hormonales dues à mon trouble dysphorique prémenstruel.
Croire, c'est important, je pense, pour le conjoint, mais en ce qui me concerne, je pense que l'autre étape qui est au moins aussi importante, c'est l'accepter. C'est accepter que ça va avoir un impact sur ta vie, c'est accepter de faire quelques deuils, au moins temporairement, dans les périodes où le trouble dysphorique s'invite à la maison, etc. C'est finalement le concevoir comme quelqu'un qui aurait une maladie chronique. Et je pense que c'est
Exact.
cet aspect chronique-là qui n'est pas facile à considérer quand on est le conjoint.
Exact. Le deuxième truc dont on pourrait parler, c'est le fait de placer le trouble dysphorique prémenstruel au cœur de l'organisation familiale. Je trouve qu'au moment où on a assumé, donc, que j'avais une condition, qu'elle était chronique, qui revenait à tous les mois, puis qu'on le plaçait d'avance dans le calendrier. Je trouve que ça nous a aidés à travailler comme une équipe, puis que ça reposait plus seulement sur mes épaules, en fait.
Ouais, c'est vrai que c'est important de l'entourer dans les quelques jours du calendrier. Ça permet de s'y préparer. Moi, ça faisait en sorte que dans les derniers temps aussi, j'essayais d'alléger l'agenda. Je prenais plus de responsabilités. J'irais pas jusqu'à dire que la charge mentale avait changé de camp, hein, quand même,
Non,
non.
je pense qu'il faudrait pas que tu oses
J'irais pas
le
là.
dire. Non,
Ok.
non.
Mais donc c'est ça. C'est sûr que j'assumais plus de choses.
Dans la maison, tu veux dire.
Dans la maison, ouais,
Ouais.
absolument, absolument. Mais pour pouvoir assumer plus de choses dans la maison, bah effectivement, tu fais de la place dans ton agenda professionnel, par exemple. Tu enlèves des réunions importantes, tu les fais moins tard le soir. Donc effectivement, ça a été super important. Et c'est vrai que ça a aidé. L'élément, je pense, c'est que ça permet aussi au conjoint de comprendre qu'il a du pouvoir sur la situation. Et souvent, quand on est dans la non-acceptation, on se recroqueville sur nous-mêmes, on résiste, et ça empire les choses. Alors que de mettre dans l'agenda, et on a une influence, et souvent ça contribue quand même à améliorer un peu toi, la situation globale dans laquelle tu trouvais. Ça n'enlevait pas ta souffrance, mais ça faisait que tu savais quand même qu'autour, bah, les choses étaient prises en charge, non?
Ouais, mais je pense que ça aidait simplement de savoir que la vie continuait malgré ma condition. C'est comme si moi j'avais le droit de rentrer dans ma crise en sachant que la vie familiale continuait grâce à toi. Je pense que le fait qu'on en ait parlé avec notre fille aussi a beaucoup aidé. Le fait quand elle est en âge de comprendre qu'on l'inclut dans cette organisation familiale-là, puis pas qu'elle ait peur à chaque mois, pour que ça ne soit pas une surprise finalement à chaque mois. C'est comme prévu à l'avance. Maman, ben, elle pète les plombs. Donc, c'est pas de sa faute, c'est pas la faute de personne, mais il faut s'organiser autour de ça.
Mais c'est vrai que ça a enlevé un peu d'anxiété, donc ça a contribué quand même à alléger l'atmosphère et puis à rendre l'ouragan un peu plus viable. Une troisième chose que j'aimerais peut-être souligner, c'est l'importance, en tout cas qui a été important pour moi, c'est de prendre soin de moi. C'est en fait de faire des pauses, de faire un peu plus de sport, de prendre des moments. Je pense que tu peux pas aider ta conjointe qui est en souffrance face à cette condition-là, tu peux pas aider ta famille si tu commences pas par t'aider toi-même. Et donc, outre ces moments-là, c'est aussi passé par le fait de consulter un psychologue et une psychologue d'ailleurs. Il en a fallu au moins deux. Ça, c'est super important de le dire parce que je pense que les gens qui vraiment sont des accompagnants de personnes qui ont des gros problèmes de santé le savent. Ils ont besoin d'être aidés. Il faut des espaces où tu peux ventiler. Et c'est vrai que les amis, ça suffit pas. En plus, les amis, ça les fait paniquer quand on leur explique ça.
Exact.
Donc, un professionnel, c'est super important, quoi.
Exact. Je veux préciser pour ceux qui nous écoutent qu'évidemment, tout ça, on donne ça avec beaucoup de recul, puis on semble en paix comme ça quand on en parle, et très sage, évidemment, mais que tout ça s'est passé avec des cris, des pleurs, de la souffrance. Hein, les symptômes restent du trouble dysphorique prémenstruel. C'est juste que on trouve des moyens pour le vivre avec juste un peu plus de fluidité. Je voulais juste le préciser parce qu'évidemment que les symptômes
Ah, tu trouves que je suis
restent.
pas resté tout le temps calme?
Pas toujours, non.
Ah
Mais dans mon cas, je parlais de la souffrance liée au trouble dysphorique
ouais. Ah,
prémenstruel
je comprends.
reste quand même évidemment une détresse qui reste là malgré toute l'organisation autour. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose?
Peut-être un dernier point en conclusion, important, qui moi m'a aidé. C'est de me dire à chaque fois qu'on était dans l'ouragan que cette condition-là ne te définissait pas. Le TDPM ne définit pas la personne avec qui on est. Elle fait partie d'elle, c'est vrai. Elle occupe une grosse place, mais elle occupe pas toute la place. Et donc quand j'étais dans la tempête, souvent je me disais, bah ouais, mais écoute, après ça, on va continuer de rire, on va reprendre un peu le cours de notre vie, même si je sais que ça avait des impacts majeurs et durables. Mais moi, ça m'a beaucoup aidé et c'est super important de le dire parce qu'au final, si on me demandait qui est Sarah, je dirais pas Sarah, c'est une personne qui a juste un TDPM. Je dirais beaucoup de choses et je dirais, mais effectivement, le TDPM fait partie de ça. Et je pense que ça, c'est quand même super important de le souligner, de le rappeler à tous les conjoints et les conjointes qui vivent ça, quoi.
Oh, on ne pourrait pas conclure sur de plus beaux mots. Merci, merci de m'avoir accompagnée et d'être encore là. J'espère qu'on a apporté de l'espoir, beaucoup d'espoir, puis un peu d'éclairage sur les façons de survivre aux troubles dysphoriques prémenstruels en couple.
Ouais, écoute,
Merci.
je mérite pas une médaille, mais ça m'a fait plaisir.
Merci.
Merci.
Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous voulez en savoir plus sur le trouble dysphorique prémenstruel ou sur l'endométriose, vous pouvez vous procurer mon livre, Maudites hormones. C'est mon témoignage sur ma bataille que j'ai livrée contre ces deux conditions pendant près de 27 ans, mais c'est aussi un guide d'accompagnement avec plein de conseils pratiques et des informations médicales. Vous pouvez également me suivre sur mon blog à sararodrigue.ca, sur ma page Facebook, Maudites hormones, ou sur mon compte Instagram à sararodrigue. Bonne journée!